Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et dans cet épisode, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va pas aborder un film, mais deux. On va aborder, j'allais dire, une saga, mais c'est pas vraiment une saga. Enfin bref, on va parler des deux films Esther.
Your hospital.
I love you, Patrick.
I can't do it anymore.
I have a surprise for you, Mommy.
What are you doing?
Donc, le premier film étant réalisé par Jaume, je suppose qu'on dit comme ça, vu qu'en principe c'est un nom espagnol, Colette Serra, et le deuxième étant réalisé par William Brent Bell, pardon. Déjà noté qu'il y a un changement de réalisation, c'est important, ça prendra tout son sens. C'est donc Esther, pour ceux qui ne le savent pas, je vous préviens. Bon, là, ce que je vais dire, c'est un spoil mineur. En fait, Esther, ça a tellement pris une ampleur de fou que généralement, les gens qui ont entendu parler d'Esther connaissent ce que je vais dire. Mais dans le doute, si vous n'avez rien entendu d'Esther et que vous ne voulez pas vous faire spoil, tout simplement, bah, n'écoutez pas ça. C'est léger, c'est ce qu'on apprend dans le 1, en fait. Mais ce que tout le monde a partagé sur les réseaux, quoi. Enfin, bref. Mais oui, du coup, Esther, c'est un film qui donc suit une jeune fille, théoriquement, donc qui s'appelle Esther, qui va se faire adopter par une famille qui a déjà deux enfants, mais qui en avait, enfin qui n'a pas eu le troisième, justement, vu que la mère a fait une fausse couche. Et c'est un souvenir assez traumatisant, et c'est pour ça qu'elle veut adopter. Sauf que du coup, quand ils adoptent cette petite fille, Esther, il commence à se passer des trucs un peu bizarre autour d'elle, des accidents, des choses un peu étranges. Évidemment, le spectateur voit tout, voit ce que Esther fait. Genre, par exemple, petit exemple comme un autre, une petite fille qui tombe d'un toboggan et qui se foule la cheville. Oh là là, je me demande ce qui s'est passé. Bon, bah, c'est Esther qui l'a poussée, bref. Et donc, la mère, qui commence à être très méfiante, fait sa petite enquête. Et en fait, on apprend que Esther n'est pas une enfant, mais que c'est une adulte qui a une maladie hormonale, pardon, ce qui fait que dans sa tête, enfin à l'intérieur, en réalité, elle a 33 ans, mais elle a l'apparence d'une enfant de 9 ans en fait, et elle en joue pour profiter des familles. Voilà, j'en dis pas plus. Donc effectivement, comme j'ai dit, c'est un peu, ça spoil un peu. Mais en fait, c'est que voilà, la légende du film le précède en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir entendu parler d'Esther sans savoir que c'est pas vraiment une enfant. Maintenant, je sais pas si je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais je pense pas. Enfin, mon but avec cet épisode, c'est pas de faire une critique séparément de l'un et de l'autre. Mon but, c'est vraiment de les comparer ensemble. C'est vraiment de voir et surtout de faire aussi une analyse de pourquoi faire une suite. Là, en l'occurrence, c'est un préquel. Préquel slash suite, quoi. Enfin, ça, chronologiquement, ça ne se passe pas après. Voilà. Mais il y a quand même Esther 2 dans le titre de l'autre. Donc bon, même si chronologiquement ça se passe pas après, c'est une suite slash préquelle. C'est aussi mon but, c'est aussi d'analyser ça, quoi. Pourquoi, quel intérêt de faire des suites, des préquelles, etc. Et je mettrai en comparaison avec une autre saga où il y a eu moins de temps entre les deux films, mais qui pour moi pose fondamentalement un problème. Et voilà, c'est pas pour les mêmes raisons, mais comme quoi ça prouve que il faut avoir une bonne idée quand on veut faire d'autres films en fait. Et déjà, je vais commencer par exprimer une évidence pour moi. C'est que Esther, premier du nom, est un excellent film et que Esther 2 dit les origines. Vu que, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais Esther 2, en gros, c'est... Non, c'est même pas... Le film en VO s'appelle First Kill, mais c'est même pas ses premiers meurtres, en fait, vu qu'elle est déjà à l'asile au début du film, elle a déjà tué des gens, il me semble. Donc, bon, Voilà. Oui, elle a déjà tué des gens, donc je ne sais pas pourquoi ça s'appelle First Kill. Maintenant, oui, ça raconte en fait l'histoire de la famille qui vient avant la famille du 1, quoi. Voilà. C'est là où elle décide de... Enfin, c'est pas elle décide, elle s'échappe de son asile et elle part aux États-Unis. C'est là où elle, oui, du coup, elle décide d'emprunter l'identité d'Esther, qui est une petite fille qui a vraiment disparu. Voilà. Du coup, je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé le premier, que j'ai pas du tout aimé le deuxième. Je vous ai parlé du contexte. Enfin, en gros, je vous ai dit de quel est l'intérêt de faire ça. Là, je vais énoncer tout de suite un problème qui est très simple. C'est pourquoi ce deuxième film a été fait. Il faut savoir que ça, c'est, je le tiens de l'interview qu'ils ont fait de chez Combini d'Isabelle Fuhrman, qui est donc l'actrice principale dans les deux films, qui joue Esther, on en reparlera. Enfin, dans le premier, ça se discute, c'est peut-être Vera Farmiga, l'actrice principale, mais bref. Mais donc, du coup, elle disait en interview que, en gros, si le deuxième film avait été fait, c'est parce qu'il y a eu une histoire comme ça, où il y a eu un doute sur une fille, en fait. Est-ce qu'elle a 30 ans ou est-ce que c'est vraiment une enfant, etc. Il y a eu un doute, donc finalement comme le film. Et donc du coup, elle dit, mais très rapidement, après cet événement-là, où tous les gens commencent à en parler, le film s'est mis en marche, je crois qu'elle a dit une semaine, je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'elle a dit une semaine, mais en gros, ouais, le film s'est mis en marche super rapidement, parce que, voilà, c'est... Il voulait en fait... surfer sur cette vague, quoi, surfer sur ce truc de ah, c'est marrant, il y a une fille qui est comme dans votre film, quoi, où on sait pas trop, etc. Et elle a dit qu'elle voulait le faire depuis plus longtemps que ça, mais que du coup, c'est vraiment grâce à ça que ça s'est fait. Et moi, ce film-là, en tout cas, en regardant cette interview, je le vois plus comme un, je dirais pas un caprice de producteur, mais enfin, ouais, un, je sais pas, des producteurs qui se disent. Putain, c'est chambé quand même ce truc de cette histoire qui correspond bien à notre film. Venez, on en refait un autre, quoi. Et on va se faire un max de thunes. Voilà. En fait, c'est, pour moi, ils ont senti juste le courant de la hype qui passait. Et ils se sont dit, mais on va le saisir, et voilà. Et pour moi, ça, c'est déjà un problème. Parce que du coup, on a en fait le... Comment dire ? La contrainte... Je vais l'appeler ça industrielle, dans le sens où... le but d'une industrie, c'est de faire de l'argent. La contrainte industrielle qui prend le pas et qui efface totalement la contrainte artistique. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas la contrainte, c'est plus la raison, mais bref. C'est-à-dire que la raison industrielle va justement engendrer une contrainte artistique. Alors que ça devrait. Je ne sais pas si ça devrait être l'inverse, mais ça ne devrait pas être dans ce ordre-là. C'est l'artistique qui devrait engendrer potentiellement une contrainte industrielle si jamais les réalisateurs veulent que ça marche. Ou voilà, ça dépend. Il y en a, ils veulent faire leur film, ils s'en tapent de si ça marchera, si ça marchera, ils le font. Et puis voilà. En attendant, le fait qu'une volonté industrielle engendre une contrainte artistique, ça pose problème. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, en général, quand on fait un film, c'est mieux d'avoir une vraie idée, une idée authentique, véritable, qui fait que on va être motivé vraiment par l'idée de réaliser cette idée, de se dire, ok, là, je tiens un truc. Alors que, dans ce cas-là, si on part avec Esther 2, si on se dit, ok, on va surfer sur une vibe, ok, on va utiliser le fait qu'il y ait cet enfant-là, je sais pas quoi, pour faire de l'argent, et bah, ça fait qu'on se force à écrire un truc pour le faire, mais que du coup, c'est moins qualitatif que s'il y avait une vraie idée derrière. Parce que là, on sent que vraiment, le scénario du 2, je sais pas ce qu'il a écrit le mec d'autre, il faut que j'aille regarder sa filmo. Mais franchement, il y a des trucs, c'est... Je sais pas quoi dire, vraiment, je suis perplexe face à ce scénario. Il y a vraiment des trucs que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, je comprends pas quelle était l'intention, en fait. Voilà, pour moi, je vais vous dire la vérité. Je trouve que Esther 2, c'est un téléfilm. Voilà. Et encore, c'est un téléfilm... mais ça fait vraiment, pour moi, limite, il y a des plans où il y a ça, des esthétiques, à part la photo terne et dégueulasse, mais je vais vous dire pourquoi ça me fait penser à un téléfilm, et même peut-être un téléfilm de Noël, carrément, pas les événements du film, clairement pas, quoique, ouais, je sais pas, non, du tout, mais c'est qu'en fait, il y a cette photo où on va avoir, je vous promets que c'est pas une blague, il y a un flou pendant tout le film, Il y a vraiment un flou pendant tout le film. Et ça, j'ai pas compris. Alors, si c'est un effet artistique, va falloir me l'expliquer. Parce que je vois pas l'intérêt, en fait. Mais voilà. Mais il y a vraiment un flou pendant tout le putain de film. Et je me suis dit, mais en fait, le film commence. Moi, on m'avait prévenu, on m'a dit les 15 premières minutes. Du coup, le film commence, je me dis, bon, bah, ça va être là au début, ça va partir. Mais voilà, après, on n'en parle plus. Et puis, voilà, ça va être là au début, ça va partir. Et puis, non. Je me suis dit, ça va être un effet. Je sais pas, ils vont vouloir faire un effet, genre, parce que c'était. Le début se passe dans l'asile. Du coup, je me suis dit, je sais pas, ils veulent faire un effet flashback ou un truc comme ça. Pas du tout, ça ne part pas. Le flou reste tout le long du film et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir un téléfilm. Et c'est le genre de flou que vous pouvez voir dans les téléfilms de Noël. Et je ne blague pas en disant ça, vraiment. Vous verrez, je vous conseille pas d'aller voir Esther 2. Je vous verrai si vous y allez. Pour moi, il y a vraiment, ça fait vraiment ambiance téléfilm de Noël. Et c'est pas ça normal pour un film qui se veut horreur, quoi. Enfin, je sais pas. Horreur, thriller, n'importe, je m'en fous. Mais c'est pas normal pour ce film-là d'avoir cette esthétique-là. Et c'est d'autant plus pas normal que le directeur de la photographie, qui est donc Karim Hussein, il a fait des trucs vraiment intéressant. Je sais qu'il a fait les films du fils de David Cronenberg, donc j'ai pas vu Antiviral, par contre j'ai vu Possessor, même si j'ai trouvé ça un peu ennuyant. Possessor, je me suis pas forcément amusé devant, ça m'a un peu fait chier. Par contre, esthétiquement, c'était magnifique, vraiment, c'était super. Et du coup, ouais, je comprends pas pourquoi il a merdé là, en fait. Je comprends pas comment il en est arrivé là. Voilà. C'est-à-dire que bon, après j'ai pas vu ses autres films, j'ai vu que Possessor et du coup Esther, mais je vous promets que c'est un niveau d'écart, c'est affolant vraiment. C'est inquiétant vraiment de faire un truc genre magnifique comme la photo de Possessor et de faire après un truc vraiment nul à yèche comme la photo et tout simplement le cadrage, la manière de filmer Esther 2. Enfin, je sais pas si moi j'ai une théorie, hein, mais je pense sincèrement que il y a plusieurs solutions. Soit c'est un effet artistique, voilà, ce qui bon serait, je sais pas, serait étrange, mais ça va. Soit le mec est chef op et il sait pas faire son point, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Si c'est ça, c'est très inquiétant. Ou alors, soit ils sont arrivés sur les lieux du tournage et toutes les caméras sont tombées et ils n'avaient pas le budget pour en racheter d'autres et du coup ça fait un flou dégueulasse comme la caméra était cassée. Moi, c'est les trois théories que j'ai développées. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Voilà, toujours est-il que j'essaye de comprendre pour comment ça se fait qu'un mec qui a fait des choses quand même pas mal intéressantes en arrive là. Donc avant de revenir sur Esther 2, repassons au premier. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé du 2. Le premier, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. Pour la simple et bonne raison qu'il y a vraiment pas mal de choses qui marchent. Je ne vais pas dire tout parce que c'est bon, voilà, évidemment, c'est très rare que tout fonctionne dans un film. Et quand c'est le cas, voilà, c'est génial. Mais là, ce n'est pas forcément le cas, mais ça, on en reste pas moins excellent. Déjà, je tiens à souligner que la présence de Vera Farmiga... Farmiga, pardon, je mets un N à chaque fois alors que c'est, il n'y en a pas du tout, mais il m'a beaucoup enchanté parce que moi c'est une actrice que j'ai vue que dans les Conjuring, que malgré le fait que les Conjuring me posent un peu problème parce qu'il y a quand même une glorification des Warren alors que c'était pas des gens très... Voilà, quoi. Ça arnaquait pas mal de gens. Donc, forcément, moi, ça me pose un peu problème ce qui est cette glorification permanente. Maintenant, je n'ai pas là pour parler des Conjuring, mais je sais pas si... je pense qu'elle a fait d'autres films que des films d'horreur. En tous les cas, les films d'horreur lui vont très bien. Je trouve qu'elle est très, très forte. J'ai été très heureux de l'avoir là. Je tiens à souligner la performance aussi d'Isabelle Fuhrman dans le premier, on va reparler du deuxième, mais dans le premier, je la trouve, franchement, je sais pas quel âge elle avait, Si elle a 25 ans cette année et que le film est en 2009, on est en 2022, elle avait 12 ans. Donc, à 12 ans, faire cette performance-là, faut le faire. Franchement, sincèrement, bravo, parce que c'est pas tous les enfants de 12 ans qui l'auraient fait. Et enfin, voilà, je sais pas pour rien aussi si le film, j'ai pas envie de dire qu'il est devenu culte, mais il a acquis quand même une certaine réputation assez importante. Voilà, j'ai pas envie de dire culte parce que bon, voilà, culte au sein de l'horreur en tout cas, ça c'est sûr. Culte au sein de l'histoire du cinéma, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est aussi grâce à elle, grâce à sa performance et voilà, évidemment aussi la révélation du film joue pour quelque chose, mais elle aussi, voilà, tout simplement. Et puis la révélation marche bien parce que c'est elle qui l'incarne, pardon. Alors déjà, outre l'esthétique bien mieux et la mise en scène vraiment, vraiment très intéressante, enfin, il y a vraiment pas mal d'effets. Je n'ai pas forcément envie d'en déballer parce que ça vous gâcherait le film, mais il y a vraiment pas mal d'effets réussis. Et au-delà de ça, il y a un cadrage, il y a quelque chose, on sait ce qu'on fait, quoi. On sent qu'il y a vraiment quelqu'un de confiant derrière la caméra. Et puis, surtout, ce qui fait que c'est beaucoup mieux, c'est que ce qui est filmé a du sens. Ce qui est filmé a vraiment beaucoup de sens. Moi, ce que j'ai aimé dans ce scénario-là, d'habitude, c'est vrai que j'ai peut-être un peu de mal avec ces figures-là, mais c'est que Esther, c'est censé être une figure du mal absolu. Voilà. C'est-à-dire que c'est son but, c'est de faire le mal. Elle n'existe que pour le mal. Et voilà, c'est quelque chose où, logiquement, pour la famille qu'elle côtoie, c'est vraiment pas fou pour eux, quoi. Parce que vraiment, son but, c'est de les, je sais pas, plutôt de les tuer. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Si vous êtes le père de famille, vous avez plutôt de la chance avant de vous tuer, elle essaiera de vous séduire. Mais sinon, ouais, votre but, c'est, enfin, son but, c'est de vous tuer. Donc oui, c'est le mal absolu. Elle n'est là que pour faire le mal. Quand elle s'échappe d'asile et qu'elle se fait passer pour une gamine, c'est pour faire le mal. Donc oui, c'est le mal absolu. Et dans un sens, c'est un peu ce que disait le directeur des Halles sur Carpenter. Carpenter aussi, il a ce côté-là d'avoir le mal absolu dans son cinéma. Et le mal absolu, il est là quoi qu'on veuille en faire, en fait. Enfin, on peut. Voilà, c'est ce qu'il disait le directeur, c'est si vous arrivez dans la salle, le mal est déjà là. C'est ça le cinéma de Carpenter. Et il disait que Carpenter probablement n'aimerait pas les films psychologiques comme Joker, etc., qui expliqueraient d'où vient le mal. Le mal absolu, il est comme ça, il est et c'est tout. Et Esther est censée être le mal absolu. Et dans le premier film, c'est très bien compris. Voilà. Dans le premier film, c'est une descente aux enfers constante. C'est vraiment une descente aux enfers. Je parle pour les personnages, pas pour le spectateur. Le spectateur, je ne vais pas dire qu'on prend plaisir à regarder ça parce que c'est des événements vraiment pas joyeux, mais en tout cas, c'est un bel objet de cinéma, ça c'est indéniable. Mais pour les personnages, c'est une descente aux enfers constante. Et voilà, ça rentre dans cette optique de du mal en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça très réussi. Dans le 2, et là je vais spoil vraiment, vraiment, vraiment. Donc si vous n'avez pas vu Esther 1 ou Esther 2, regardez le 1. Regardez pas le 2 ou allez-y à vos risques et périls, je vous aurais prévenu. Voilà, mais là je vais spoil un peu plus vénère. Dans le 2, au bout d'une heure de film, il y a une révélation où en fait la mère sait depuis le début que ce n'est pas sa fille parce que son fils a tué sa sœur. Voilà. Donc depuis le début, elle sait que ce n'est pas Esther. Elle sait que c'est une parfaite inconnue. Et voilà, elle le sait pertinemment. Mais, oh tiens, on va la laisser dans la famille parce que. Oh, mon mari, il reprend des couleurs, il arrive à peindre et aussi il fait l'amour avec moi. Donc c'est mieux qu'on franchement le laisse dans l'ignorance. Moi, je tiens quand même à ce qu'il me fasse l'amour. Venez, on le laisse dans l'ignorance. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une réplique où elle est dans le Esther est dans l'atelier à peinture du père de famille où elle est en train de peindre et il y a la mère qui lui dit oui, je l'ai jamais vu aussi heureux que depuis qu'on t'a retrouvé, etc. Et elle lui fait maintenant je te laisse parce que je vais aller faire l'amour à mon mari. Voilà, c'est vraiment une réplique du film, c'est plein de blagues. Donc bon, Déjà à ce niveau-là, voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, si seulement ça s'arrêtait là, ça ne s'arrête pas que là. Puisque la famille est pire qu'elle. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, le fils a quand même tué sa sœur. Voilà, en mode c'était un accident, j'ai pas fait exprès. Il a quand même buté sa sœur, la mère le camoufle. Et ils vont essayer de faire vivre un enfer à Esther, en fait. Et moi, c'est à partir de là où on essaye de faire passer justement ce, les gens, comment dire, les gens, j'ai pas envie de dire méchants, mais entre guillemets de mauvaises personnes, des gens qui ont fait des choses qui sont pas très recommandées en général quand on est quelqu'un de bien, pour des gens victimes, des gens gentils, moi ça m'énerve. Et c'est là où je vais venir avec mon autre comparaison, qui est Don't Breathe, la saga Don't Breathe. Je crois que j'en ai déjà parlé, je sais pas, j'ai un doute. Mais toujours est-il que c'est un film, Don't Breathe. Le premier est génial, la mise en scène est superbe, pardon. J'ai adoré l'écriture des personnages. Je les trouve très nuancés, autant le vieillard que le groupe de jeunes. Voilà, parce que le vieillard, ça reste un connard, avec tout ce qu'il a fait. Mais le groupe de jeunes, ils vont quand même s'introduire chez un mec, parce qu'il est aveugle et qu'ils savent qu'il a de la thune. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. Et le film en a parfaitement conscience, et il le montre, j'en ai pas parlé dans ce podcast, je pense, mais il en a parfaitement conscience, et il le fait bien sortir. Esther, c'est le mal absolu. Donc, il n'y a pas de pied d'égalité entre Vera Farmiga pardon, et sa famille, et Esther, c'est le but. Mais par contre, dans le deuxième, oh la pauvre, c'est bon, j'ai vraiment l'impression que le film me crie ça. Mais t'as vu ? Dans le premier, elle a été genre trop forte et tout, et là, elle se fait chasser et tout. Waouh ! T'as vu ? Ils lui font vivre un enfer. Ils sont pires qu'eux, hein ? C'est vraiment la famille américaine riche qui a des lourds secrets. Et ils sont pires que la petite russe qui va tous les tuer. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé, ce... Voilà. Ça m'a énervé, ce traitement-là du personnage. Ça m'a énervé. C'est comme si, en fait, vous regardiez un Halloween. Je parlais de Carpenter. C'est comme si vous regardiez un Halloween et que Michael Myers s'était totalement ridiculisé. Alors, Michael Myers peut être, entre guillemets, chassé. Laurie Strode le fait. Il n'y a pas de souci parce qu'elle veut le tuer avant de finir avec lui. Mais pour autant, ça n'enlève rien à la caractéristique de Myers d'être supérieur à elle, d'avoir cette aura qui dégage un truc de mystique, etc. Ici, dans Esther, en fait, à partir du moment où ils partent dans cette direction-là, elle est totalement ridiculisée. Pour moi, c'est... Et ça peut être intéressant de démystifier des personnages comme ça, mais là, c'est juste ridicule, en fait. Voilà. C'est ridicule que... C'est tellement ridicule que ça en devient nanardesque. Et je comprends pas trop, en fait, de pourquoi avoir fait... Je sais pas. En fait, je vais pas vous mentir, avant ce twist... Je passais pas forcément un mauvais moment. Enfin, je veux dire, je voyais que c'était un mauvais film, mais je passais pas un mauvais moment. C'était un bon nanar, quoi. Voilà. Mais à partir de là, je me suis dissocié justement du fait de pas passer un mauvais moment parce que je trouvais ça scandaleux. Et je trouve toujours ça scandaleux et j'ai pas compris pourquoi. Ça n'a aucun sens de faire ça, vraiment. Et je suis vraiment en colère contre le film. Parce que pour le coup, moi, je m'en foutais que ce soit un bon film. Moi, je voulais juste être diverti. Si c'était un bon nanar, je signais tout de suite. Mais là, vraiment, l'esthétique téléfilm, ce rebondissement... en tout cas, il y a un truc... L'esthétique, j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas, il y a un truc qui est... Quand je vous disais qu'Isabelle Fuhrman, je la félicitais pour le premier, il y a un truc qui est génial, c'est que le reste est tellement nul à chier qu'on fait même pas attention à elle. Elle, franchement, ça va. Comparé au reste, enfin, je veux dire, ouais, la meuf, elle a 25 ans, elle joue une fille qui, en apparence, en a 9. Ça va. Ça va. Le reste est tellement horrible que ça va. Voilà. Et ouais, le reste du casting, j'en parle même pas parce que je sais pas où ils ont été les chercher. Ça se trouve, j'ai pas de culture. Hein. Ça se trouve, ils sont plutôt connus et je les connais pas. Mais... J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, en fait, sur le casting. C'est juste que ça joue très mal, quoi, et que ça contribue à ce truc de téléfilm, en fait. Et c'est très dommage, parce que il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien avec Esther, même en faisant des préquels, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas forcément pour les préquels, je ne suis pas forcément pour ce truc de l'origin story, etc. Ça peut être sympa, mais il faut avoir des vraies idées. Là, ce n'était pas le cas, et je pense qu'il y avait des trucs sympas à faire, et qu'ils ont tout gâché, et ça me fait chier, ça me fait vraiment chier. Et j'en parlais avec quelques personnes, mais c'est même pas... D'ailleurs, il faut que je vois si je vous fais un épisode sur Arthur Malédiction, j'ai beaucoup hésité. Maintenant qu'il est parti des salles, en fait, je voulais pas, avec ce film, je voulais pas faire de la publicité. Parce que même, voilà, moi, on m'a parlé en très mal, et je me suis dit, c'est la curiosité qui fait qu'on a envie d'y aller. Donc maintenant qu'il est plus dans beaucoup de salles, il a deux salles, je vois sur Assoir Halluciné, je pense que je ferai un épisode dessus, que je ferai un dossier dessus carrément, parce que vraiment le film c'est un délire à quel point c'est honteux, mais bref. Au moins, moi la seule chose qui m'a à peu près, où j'ai levé la tête un peu comme ça pendant le film, c'est qu'il y avait deux trois effets gore qui étaient à peu près sympas, voilà. Qui, bon, ça se laissait bien regarder, c'était pas mal. Dans Esther 2, c'est... J'ai même pas, ou en tout cas, j'ai pas le souvenir d'effets gore. Donc, s'il y en a, c'est pour vous dire à quel point ils m'ont marqué. Pour moi, il y en a pas. Donc, voilà. C'est même pas satisfaisant de voir ça. Et puis, surtout, même en termes d'effets, les effets tout court sont dégueulasses. Mais, genre, vraiment, je vais parler là de la fin. Mais la fin, c'est cet incendie. Mais je vous assure. Je n'ai aucune compétence en montage. Enfin, pas aucune. Enfin, j'en fais vite fait pour m'amuser comme ça. Mais voilà, j'ai aucune compétence véritable en montage, quoi. Aucune, vraiment, ça. Par contre, zéro compétence en effets spéciaux. Mais je vous promets que je pense que je suis capable de faire mieux que l'incendie de la fin d'Esther 2. C'est vraiment flamme.mp4. Je déconne même pas. C'est flamme.mp4. C'est affolant comment c'est d'une qualité... zéro, en fait. Je comprends pas juste comment... Au-delà du fait que ce soit un mauvais film et que j'ai perdu mon temps et que machin, je comprends pas comment on peut en avoir autant rien à foutre au point de faire ça, en fait. C'est ça qui me fascine. Comment on peut en avoir rien à foutre au point de faire ça. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le film Esther, le premier, je l'avais pas vu. Donc du coup, j'ai vu Esther un soir. Et le lendemain, je suis allé voir le deuxième. Donc le différentiel, je l'ai senti passer. C'est comme si, c'est comme quand vous allez vous baigner, je sais pas, je dis des conneries, en Bretagne. Qui fait, non, je vais pas dire, bon. Moi, j'ai l'habitude d'aller au Portugal, c'est le même océan, donc c'est aussi froid. Mais c'est comme si vous alliez vous baigner au Portugal, qui fait 35 dehors, que votre corps est gelé, que vous rentrez dans l'eau à 17 degrés, quoi. C'est genre le choc, vraiment, le choc. Le choc de différence, quoi. C'est assez ouf qu'en fait, comme le 2 est tout le contraire du 1, et ce qui fait qu'il est raté, en fait, parce que le 1 est réussi, donc forcément, si on fait le contraire, ça donne quelque chose de raté. Et voilà, je sais pas, maintenant... j'ai vu aussi, je lance le débat comme ça, hein, sur les suites de films d'horreur et de films en général qui marchent bien. Je lance le débat sur les Saw aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait Saw 10 qui allait être fait. Les gars, faut vous calmer et peut-être penser à arrêter au bout d'un moment. Voilà. Non, j'avoue que Spiral, les gens avaient bien taclé. C'est pas un bon film, mais ça fait partie des bons nanars où j'ai passé un bon moment dedans. Maintenant, ouais, faut vous calmer, les gars. Le 10, déjà, je pense que les... Allez, j'ai vu que le 1, d'après ce que j'en ai entendu, à la limite, le 2 peut passer, mais tout le reste, c'était pas nécessaire. Voilà. Donc, faut vous calmer. Et surtout, en fait, moi, pour moi, ça, c'est un vrai problème, en fait, aujourd'hui, dans le cinéma. C'est qu'on voit plus l'aspect industriel, c'est-à-dire de faire des films, de générer du revenu, que l'aspect artistique, en tout cas à Hollywood, c'est ce qui commence à se dessiner. Même des boîtes de prod indépendantes vont se faire racheter. Enfin, je pense à A24 qui... Ça, c'est pas sûr, je sais pas si le deal a capoté ou pas, mais il y avait des grosses rumeurs comme quoi Apple allait les racheter. Donc, c'est pour moi un problème à Hollywood, en fait. Ce truc de... Voilà, de... Là, la genèse, elle était brouillon, le film est parti en deux secondes. Enfin, c'est genre, allez hop, on le fait, waouh. Et forcément, ça peut aboutir que sur de la merde, fallait pas s'étonner. Et voilà, bon, pour synthétiser, pourquoi Esther 1, c'est génial, parce qu'on a une très bonne mise en scène, parce qu'on a un très bon casting, très très bon casting, Isabelle Fuhrman qui, pour le coup, dans ce rôle-là, en étant enfant, déchire, voilà, parce qu'on a des très bons effets de films d'horreur, parce qu'on a une bonne mise en scène, ça je crois que je l'ai déjà dit, parce qu'on a une esthétique plutôt soignée, voilà, il faut le dire, une esthétique plutôt soignée, qu'on a un scénario cohérent, ce qui est filmé est très cohérent, avec des petits indices disséminés un petit peu par là, pour un petit, voilà, à droite à gauche pour la révélation, et parce qu'on a une figure d'Esther qui est vraiment crédible en termes de mal absolu, en termes de descente aux enfers des personnages, c'est très crédible. Maintenant, le 2, pourquoi c'est pas bien ? Bah, tout le contraire, on a une mise en scène, bon, il y a des moments peut-être un peu sympathiques, voilà, je veux bien accorder ça, il y a des moments de mise en scène sympa. Maintenant, au contraire, l'esthétique est dégueulasse, pour moi, enfin, je vous ai exprimé ma théorie sur les caméras, ce flou dégueulasse, la photo est même pas belle, en fait, c'est terne, à la limite, ça pourrait être flou et joli, ça ne dérangerait pas, là, c'est juste moche et flou. Bref, voilà, Isabelle Fuhrman, en fait, Isabelle Fuhrman, là où elle a beaucoup de chance dans ce film, c'est que, comme je l'ai dit, c'est tellement nul autour d'elle qu'on n'y fait pas vraiment attention, et les acteurs autour d'elle jouent vraiment très moyennement, que du coup, elle, ça va, voilà, donc on fait pas vraiment attention à elle, mais c'est vrai que je la trouve meilleure dans le premier, voilà. Après, bon, faut pas être un génie pour penser que ça allait être ça, étant donné que la meuf voilà, joue quand même une personne qui est censée avoir 9 ans quand elle en a 25. Et par contre, je trouve ça cool, faut le dire aussi quand il y a des points positifs, qu'ils aient utilisé majoritairement des effets pratiques et pas des effets numériques. C'est des histoires de prise de vue, de perspective. Aussi, les autres acteurs, autres qu'elle, portaient des énormes bottes qui faisaient que... Elle était à sa taille normale, mais eux paraissaient beaucoup plus grands, mais du coup, avec la perspective, voilà. Donc ça, c'est honorable d'avoir utilisé des vrais effets, et pas des effets numériques. En attendant, c'est peut-être le seul truc honorable pour ce film, voilà, clairement. Mais ouais, je pense que mon plus gros reproche, ça reste ce scénario qui... En fait, c'est à chaque fois qu'on pense qu'il a pris son dernier virage, on va dire comme ça, en fait, c'est... On se dit, ça y est, c'est fini, là, ça va aller tout droit, ligne droite, ça va être cohérent. Non, ça reprend un virage, mais c'est même pas des virages, c'est des demi-tours, des quarts de... Je sais pas ce qu'ils font. C'est désolant. Voilà, c'est juste désolant. Et ce qui est encore plus désolant, c'est que ce scénario incohérent fait perdre toute la crédibilité au personnage d'Esther. Voilà, pour moi, en tout cas. Après, si je fais le podcast, c'est pour exprimer mon avis personnel, vous avez en avoir le vôtre. Bref, oui, c'est logique. Mais oui, et en plus, ça contredit le premier, parce qu'en gros, il y a cette histoire de, quand Vera Farmiga est au téléphone, elle séduit le père de famille, et si ça marche pas, elle bute toute la famille. Mais là, le père de famille, elle essaye même pas de le séduire. Enfin, si, elle essaye de le séduire quand elle a déjà buté le fils, et quand la mère est... morte aussi, éclatée par terre, la tête éclatée, bref. Donc elle est totalement morte. Donc bon, c'est pas cohérent avec l'univers, c'est pas cohérent avec le personnage d'Esther, et puis c'est juste débile et n'importe quoi. Et voilà, je ne vous conseille pas du tout Esther 2, par contre Esther 1, si vous voulez regarder, c'est vachement bien, ça vole vraiment pas sa réputation, et voilà. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu, cette petite rentrée du podcast, qui vient se faire tranquillement. J'avais teasé sur mes réseaux sociaux, de toute façon, cet épisode, j'en avais teasé deux autres qui vont arriver, ne vous en faites pas. J'avais teasé JSA de Park Chan-wook, parce que j'ai découvert récemment, et ça a été vraiment une belle découverte, je vous en parlerai. Et puis, un épisode aussi sur le cinéma de Jordan Peele, parce que Nope est un des meilleurs films de l'année, et parce qu'il fait mieux pour moi à chaque film, et je trouve ça formidable, et je pense que c'est intéressant de parler de son cinéma, et ça va être le premier épisode depuis la fusion que je vous avais annoncée, entre Mise au Point et Daily Movies, voilà. Donc, ce sera ce premier épisode-là. Je vais peut-être vous faire un épisode, je pense pas que je vous fasse un épisode spécifiquement sur Joe Dante, mais je vais peut-être vous faire des épisodes sur des films de Joe Dante, parce qu'il y a le Grand Action à Paris, Super Cinéma, qui a fait une rétrospective Joe Dante, j'en ai vu pas mal, notamment la quatrième dimension, je pense qu'il y a des choses à dire, voilà, et donc bref, c'est un peu mes plans pour les prochains épisodes aussi, pourquoi pas parler de l'Étrange Festival, j'attends de savoir si je serai accrédité ou pas, j'ai pas beaucoup d'espoir, voilà, mais on sait jamais, voilà, je vais demander quand même. Et donc bref, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain.